Une émission présentée par Aline.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente le journal hebdomadaire de la vie quotidienne. Au sommaire cette semaine, le thème principal mis sous les feux de la rampe vous éclairera sur le microbiote, communément appelé la flore intestinale. Ce sujet fait beaucoup parler de lui car il a été établi que le microbiote intestinal est impliqué dans de nombreux processus. Au-delà de la régulation de notre digestion, il intervient dans la réaction au stress. Il est donc sensible aux émotions. Il est maintenant appelé notre deuxième cerveau. Dans la rubrique « Ces aliments qui nous soignent », nous aborderons la tempérance alimentaire, soit le juste équilibre de nos besoins de nourriture. Et pour finir, je vous proposerai un conte zen, extrait du livre d'Henri Brunel, « Les plus beaux contes zen ». Mais tout de suite, coup de projecteur sur le microbiote intestinal. Il pèse 1,5 à 2 kilos, l'équivalent du poids de notre cerveau, et vit au creux de notre ventre. Ce passager clandestin se nourrit de tout ce que nous mangeons. Il peut provoquer une litanie de symptômes et maladies. Fatigue, insomnie, diarrhée, constipation, ballonnement, flatulence, affections cutanées comme l'eczéma, le psoriasis, prise de poids, obésité, stress, dépression, maladies infectieuses comme la grippe, le rhume, la gastro-entérite et même certains cancers comme le cancer du côlon. Mais il ne faut surtout pas le détruire car cet intrus peut devenir notre meilleur atout pour notre santé. C'est avant tout un allié dévoué et courageux. Il nous aidera à nous défendre contre la maladie. Il contribuera à nous protéger contre les toxines, les métaux lourds. Il pourra nous donner meilleure morale, car il favorisera la sécrétion de sérotonine, l'hormone du bonheur. Il peut nous aider à nous battre contre la dépression, le cancer, l'obésité, et il peut nous aider à agir contre certaines maladies, dont le diabète ou Alzheimer. Cet organe santé, c'est le microbiote, appelé aussi la flore intestinale. C'est seulement au cours des 15 dernières années que les scientifiques se sont aperçus de son rôle sur les différentes fonctions corporelles. Mais aujourd'hui, on le sait, c'est un organe à part entière. Il travaille comme le foie, le cœur, le cerveau, pour notre santé. Il n'est pas composé de cellules humaines, mais uniquement de corps étrangers, de bactéries, de levures et même de virus. Il est hébergé dans le système digestif, qui lui-même est un système extérieur à notre corps. Car le tube digestif s'ouvre sur l'environnement à ses deux extrémités qui sont la bouche et l'anus. Le tube digestif est comme un canal alimentaire. Donc, ce microbiote intestinal remplit trois fonctions majeures pour la santé : la digestion des aliments, l'effet barrière et le développement du système immunitaire. Un bon microbiote intestinal doit ainsi avoir un bon équilibre avec une grande majorité de bonnes bactéries et une grande variété de micro-organismes. Si le microbiote intestinal souffre de déséquilibre, on parlera de dysbiose. La plupart des déséquilibres du microbiote s'expliquent par les bouleversements de notre mode de vie. Et ses ennemis sont une trop forte consommation de sucre, qui peut provoquer une inflammation de notre tube digestif, la consommation régulière d'aliments transformés, et oui, les conservateurs qu'ils contiennent détruisent la microflore saine et nourrissent les mauvaises bactéries et autres levures. La consommation d'eau chlorée, car le chlore contenu dans l'eau du robinet permet de tuer les gerbes nuisibles qu'elle peut contenir, Mais de la même manière, il s'attaque aussi directement à votre flore intestinale sans faire le tri entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Et le stress, à lui tout seul, il peut générer une modification de la composition du microbiote. S'ensuivent la pollution, les métaux lourds, oui, le cuivre ou le zinc, contenus en quantité importante dans les poissons de la fin de la chaîne alimentaire, tels que les saumons, le thon, transforment certaines bactéries en bactéries pathogènes. Et enfin, les médicaments, comme les médicaments anti-reflux ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène, l'aspirine, qui eux abîment le revêtement muqueux de l'intestin et donc le microbiote. N'oublions surtout pas les antibiotiques, bien sûr, qui attaquent les bactéries, quelle que soit leur nature. Et nous y sommes souvent confrontés, dans notre médication certes, mais aussi dans la plupart de la nourriture que nous consommons, dans le lait, la viande et les poissons, qui sont chargés en traitement antibiotique. Pour éviter d'avoir un microbiote malade, vous devriez commencer par limiter tous les facteurs que je viens de mentionner. C'est dans son livre « Le charme discret de l'intestin » que la jeune médecin allemande Julia Anders, à force d'investigation, nous démontre le lien entre le cerveau et l'intestin. Ce n'est en effet pas un hasard si bon nombre d'expressions sur nos émotions ont un rapport avec notre ventre. Se faire de la bile, être pris aux tripes, mal digérer une mauvaise nouvelle, avoir la peur au ventre. En fait, l'intestin joue un rôle clé de messager pour le cerveau. Contrairement au cerveau qui se trouve isolé du reste du corps, l'intestin, lui, est au cœur de notre activité. Il sait tout ce que nous avons mangé. Il peut sonder les hormones qui se promènent dans notre sang. Il connaît l'état de nos cellules immunitaires. À travers le nerf pneumogastrique qui le relie au cerveau, l'intestin bénéficie d'une ligne directe pour envoyer ses informations sur son environnement. Et il produit en effet les mêmes neuromédiateurs que le cerveau. La sérotonine donc, appelée l'hormone de la bonne humeur, est produite à 80% dans l'intestin. L'acétylcholine, qui est le messager chimique de la mémoire, aussi. Et la noradrénaline, impliquée dans l'attention, l'apprentissage, l'émotion et le sommeil, ainsi que le GABA, l'acide gamma-aminobutyrique, qui favorise le calme et la relaxation, y sont aussi fabriqués. Et c'est là que les bactéries de notre microbiote interviennent, car elles sont capables de stimuler ces neurotransmetteurs. En effet, le tryptophane, un acide aminé essentiel précurseur de la production de la sérotonine, ne peut pas être produit par le corps humain. Il doit être fourni soit par l'alimentation, soit, je vous le donne en mille, par les bactéries intestinales. Une mauvaise flore intestinale peut donc agir directement sur notre morale, notre capacité à résister au stress ou sur la qualité de notre sommeil. Et certaines bactéries pathogènes poussent même le vice jusqu'à consommer le tryptophane. Il en va de même pour la tyrosine, un autre acide aminé, précurseur celui-là, de la dopamine et de la noradrénaline, qui est elle aussi attaquée par les mauvaises bactéries. Mais l'influence de notre microbiote sur notre santé ne s'arrête pas là. Je ne vais pas vous donner de conseils sur ce sujet si complexe, il n'y a pas de recette miracle. Il est bon de savoir que pour un microbiote bien équilibré, il faut 85% de bonnes bactéries. Chaque être humain possède un microbiote unique. Et même si nous avons en commun la plupart des bactéries qui composent notre flore intestinale, leur répartition varie énormément d'un individu à l'autre. Certaines personnes ont un microbiote en or qui va les protéger efficacement. Et d'autres, en revanche, souffrent d'un microbiote très pauvre ou pire, contaminé. Vous-même avez peut-être, sans le savoir, déséquilibré votre flore intestinale en consommant des aliments favorables aux mauvaises bactéries. C'est pourquoi, avant de se lancer dans la restauration de votre microbiote, il est important de suivre les conseils d'un professionnel de santé. Je conclurai en disant que la majorité de nos problèmes de santé pourraient bien voir le jour dans un microbiote déséquilibré. Quand nos microbes vont mal, c'est tout notre corps qui va mal. Alors, prenons-en soin au quotidien, comme nous prendrions soin de ce que nous pourrions avoir de plus précieux. Dans la rubrique « Ces aliments qui nous soignent », je vous parle aujourd'hui de la tempérance alimentaire. Si la qualité des denrées alimentaires est importante, la proportion des aliments que l'on consomme est également à prendre en considération avec la plus grande attention. Il faut manger avec mesure, ni trop peu, ni trop, de manière variée. C'est de cette manière que les fonctions digestives sont les plus performantes. Manger avec mesure une alimentation diversifiée est la condition la plus importante pour garantir la santé du corps et de l'esprit. Manger et boire en excès, cela entraîne une accumulation et une stagnation des aliments dans l'estomac. Cette accumulation alourdit la charge de l'estomac et des intestins, empêche leur fonctionnement normal. Les aliments ne sont pas digérés en temps voulu, ce qui affecte l'absorption et le transport des matières nutritives. De plus, la stagnation des aliments au niveau de l'estomac bloque les mouvements naturels d'énergie vers le haut ou vers le bas. Il en résulte une distension et une douleur au niveau de l'estomac, des éructations, des renvois, voire des nausées et des vomissements, des troubles intestinaux, des ballonnements, de la constipation ou encore des selles liquides. Si on mange trop de façon habituelle, les troubles digestifs s'installent de façon chronique. Et comme le système digestif est le grand pourvoyeur d'énergie dans le corps, petit à petit, des carences s'installent, entraînant à leur tour d'autres maladies. Au contraire, si l'on mange trop peu, la transformation des aliments en énergie et en sang par l'action de la rate et de l'estomac est insuffisante. Cela provoque à la longue une malnutrition des organes et des tissus, et les activités vitales du corps manquent de support pour fonctionner. Des maladies par carence peuvent alors apparaître. L'idée est de manger à 75% de ses capacités, c'est-à-dire de sortir de table sans jamais avoir l'impression d'être complètement rassasié, le ventre lourd ou distendu. Les proportions idéales d'un repas, selon les médecins tibétains, sont les suivantes. Une moitié d'aliments solides, un quart d'aliments liquides et un quart de vide. Bon appétit! Faisons une petite pause musicale après ce menu un peu indigeste. Voilà une jeune artiste qui promet, Barbara Pravi. Elle a moins de 30 ans et est la gagnante française de l'Eurovision 2021. Elle est auteure-compositrice. À l'occasion du 8 mars 2021, Journée internationale du droit des femmes, elle sort un nouvel EP, Comprendre Extended Play, qui est comme un mini-album composé de six titres, Les Prières. Ce sont six chansons qu'elle définit comme six chansons, six prières faites seules, six textes qui ont le goût de l'indépendance, du calme, des évasions et de la tendresse. Écoutons ensemble la prière au printemps.
Que j'enterre, parce qu'encore je la traîne, je la traîne, je me traîne parfois. Je lui dis à jamais, au revoir à jamais, toi celle que j'ai été, que j'ai été, que j'enterre, parce que pour avancer, avancer, je dois me faire légère pour accueillir le printemps dans ma vie comme une raison d'aller de l'avant, de toujours avancer, pousser et fleurir quand tourneront les vents. Oh, laisser grandir l'horizon infini tout au fond, au fond de moi, comme une raison de croire en l'avenir et revenir comme renaît le printemps. Puisqu'après tout elle passe, puisqu'on se débarrasse, débarrasse de nos peaux, de nos charges, de nos pierres, de nos pères, de nos mères. Que ce qui nous retient, que ce qui nous retient nous empêche et nous freine, tout ce qui nous freine reste là dans l'hiver. Car moi je me relève, moi je me relève, le sourire aux lèvres. J'apprends à retenir le printemps dans ma vie comme une raison d'aller de l'avant, de toujours avancer, pousser et fleurir quand tourne. Tout au fond, au fond de moi, comme une raison de croire en l'avenir et revenir comme renaît le printemps.
Belle intention, de la douceur, de l'amour, des prières pour les autres, pour soi, pour tout ce qui nous entoure et même ce qu'on ne voit pas. Le zen s'adresse en ses commencements à des populations de tradition orale. Les moines zen ont souvent recours aux contes pour mettre à la portée des plus humbles la pensée zen, si difficile à saisir en raison même de sa simplicité. Voici la lecture de « Une tasse de thé », extrait du recueil de contes d'Henri Brunel, « Les plus beaux contes zen ». Rien à voir avec la choucroute, mais plutôt avec l'attachement qui fait référence à l'émission de la semaine dernière sur le thème des addictions. Alors voici. Il était une fois une jeune fille de haute naissance, merveilleusement belle. Son père, resté veuf, l'élevait selon son rang. Elle ne quittait jamais les jardins du palais. Elle étudiait le dessin, la peinture, la poésie, l'art des bouquets, pratiquait la musique où elle excellait. Son cœur était neuf et son âme sensible. Parfois, au fil de ses rêves, elle contemplait par sa croisée la rivière en contrebas qui baignait le vaste domaine. On songe au vers du poète. Une dame à sa haute fenêtre, blonde aux yeux noirs en ses habits anciens, que dans une autre existence peut-être j'ai déjà vue et dont je me souviens. L'héroïne de ce conte n'est pas une blonde châtelaine du Moyen-Âge, mais une princesse vietnamienne de temps plus ancien. Les âmes romanesques, semblables et différentes, sont comme les roses au jardin. Un soir d'été, Mai Nyong, accoudée à la haute croisée, entendit un chant merveilleux, une voix d'homme ample et puissante, et dans le même temps si juste, si harmonieuse, que son cœur fut touché. Elle aperçut dans le lointain un batelier qui maniait sa gaffe sur la rivière. Le chant lui parvenait maintenant si pur, si musical, si éblouissant qu'elle frissonna jusqu'aux os. Jour après jour, elle prit l'habitude, quand le soir tombait, d'écouter la voix du pêcheur. Son cœur de jeune fille sage s'enflamma. Quand l'automne vint, le pêcheur s'en alla. Alors, Mai Nyong s'alita. Elle maigrissait, perdait sa beauté, s'éteignait comme une chandelle. Son père désespéré appela à son chevet les médecins les plus réputés du royaume. En vain, la belle princesse doucement se mourait. Un soir, au commencement de l'hiver, la voix fut de retour. La jeune fille, réunissant ses forces, se traîna jusqu'à la croisée. Le pêcheur était sur la rivière, ramassant ses filets. Mai Nyong l'écouta avec ravissement. Il revint tous les jours. Elle recouvra progressivement la santé, mais fin janvier, la voix se tut à nouveau. Le pêcheur était parti vers d'autres cieux. Alors, Mai Nyong tomba malade. Elle refusait de s'alimenter. Elle ne s'intéressait plus à la peinture, ni à la poésie, ni à l'art des bouquets, ni même à la musique où elle excellait. Son père, à force d'obstination et de prière, lui arracha son secret. Le Seigneur aimait son unique enfant. Il fit taire ses préjugés. Il ordonna que l'on cherche dans tout le royaume le pêcheur à la voix merveilleuse. On le trouva. L'homme se nommait Truong Che. Il était âgé, d'une laideur repoussante. Ses mains étaient abîmées par le rude travail quotidien. Son dos voûté, son visage ridé, brûlé par le soleil, était presque difforme. Quand Mai Nyong le vit, elle fut effrayée. Son amour s'éteignit comme une bougie que l'on souffle. Le chant lui parut moins exaltant. Elle reprit une vie normale, un peu plus triste mais calme, paisible. Le pêcheur a quelque temps de l'amouru. Peu après, les gens du village découvrirent dans la rivière une boule de jade qui émettait un son très pur quand on la tenait dans ses mains. Ils l'apportèrent au Seigneur. Celui-ci la fit tailler en forme de tasse de thé. Et il offrit ce cadeau à sa fille à l'occasion de son 18e anniversaire. Un après-midi, la princesse Mai Nyong buvait son thé et son âme romanesque s'envolait au-delà des murs du palais quand il lui sembla apercevoir, au fond de sa tasse, la barque et le pêcheur. Elle crut entendre une voix d'homme, ample et puissante, et dans le même temps si juste, si harmonieuse, que son cœur fut touché. Elle comprit alors que ce n'était pas le pêcheur qu'elle avait aimé, mais l'infini de ses rêves. Tout est musique quand le cœur est prêt. Et voilà, notre émission s'achève pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Retrouvons-nous la semaine prochaine, même lieu, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien. Pensez à bien respirer, à bien manger, à bien rigoler, à bien bouger, à bien vous reposer, à bien aimer. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site de Radio Sainte-Afrique, dans les hebdos, la Villa Vidanta. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, l'émission sera rediffusée le samedi à 8h15. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter. À 17.